Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Il est 8h53 minutes. Luc Ferrandaise en studio, bonjour.
Salut Louis.
Nathalie, bonjour Nathalie Normando.
Bonjour, bonjour Louis.
Comment vas-tu?
Je vais bien, merci.
Ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Trop longtemps.
C'est vrai. Bon. C'est vrai.
Premier sujet, qui commence? Ça va être Nathalie. Tiens, est-ce qu'on peut justifier l'exclusion des hommes blancs pour donner la chance à des candidatures qui sont issues de minorités visibles?
Un gros sujet pour un lundi, pour un lundi matin.
Ouais, ouais, ouais. Ben oui, c'est ça. Alors, est-ce que, en d'autres termes, est-ce qu'on doit approuver la discrimination positive, dans le fond?
Oui, ben t'as raison, c'est de ça dont il s'agit. Ben tout d'abord, c'est une manchette, un titre d'un article paru dans le journal Le Devoir qui a retenu notre attention. Et le titre est le suivant: l'exclusion des hommes blancs d'appels de candidature fait l'objet de plaintes. J'ai envie de vous dire ce matin, pauvres hommes blancs. Et celui qui a pris la décision de porter la plainte, déposer cette plainte, c'est Frédéric Bastien, historien. On le connaît au Québec là, et il a été un jour il souhaitait devenir chef du Parti québécois. En fait, on est dans une logique dans une dynamique de logique inversée. L'homme se plaint d'être possiblement victime de discrimination. Il parle de dérive, mais en fait, il se dit potentiellement discriminé parce qu'exclu de certains programmes universitaires pilotés par le gouvernement canadien. Et lui, ce qu'il prétend, c'est que parce qu'il pourrait être potentiellement discriminé, ben alors pour lui, on peut questionner le programme d'égalité qui est soutenu par les universités canadiennes qui souhaitent mettre de l'avant des programmes de chaire de recherche financés par le gouvernement fédéral. Moi, je dis pauvres hommes blancs parce que le type en question, Frédéric Bastien, se dit victime peut-être de discrimination face à un programme qui lui-même s'attaque à la discrimination. D'où la dynamique de logique, de logique inversée. Alors, ce que j'ai dit, c'est que ces programmes qui visent à rétablir une certaine équité ont donné des résultats. D'ailleurs, je lisais sur le site du programme des chaires de recherche du Canada. Jusqu'à maintenant, en mai 2022, en fait, il y a 88% des établissements au pays, les universités, qui ont atteint leur cible en matière d'équité. En janvier 2009, il y a par exemple 24% de femmes qui bénéficiaient de ces programmes, alors qu'en septembre 2022, c'est un peu plus de 44%. Donc, ces programmes de discrimination positive donnent des résultats.
Luc?
Non, vraiment un mauvais programme de A à Z, quant à moi. C'est vraiment... D'ailleurs, c'est le genre de programme qui va faire que les libéraux vont perdre le pouvoir, parce que c'est un excès, parce que c'est une exagération. Puis là, quand les conservateurs vont rentrer, ils vont pas juste enlever le programme de discrimination positive, ils vont enlever le financement au complet des universités, puis on va avoir tout perdu. Donc, le financement des programmes des chaires de recherche, du moins. Pourquoi c'est un mauvais programme? Parce que ce n'est pas de la discrimination positive. C'est de l'obligation à la discrimination. Un projet de la discrimination positive, quand tu lis ça dans les programmes de ressources humaines, c'est à compétence égale, tu prends la personne qui est en minorité. Mais là, c'est pas à compétence égale. Le gars n'a même pas le droit de se présenter. L'homme blanc n'a même pas le droit de poser sa candidature.
Alors, ça veut dire, selon toi, que ça exclut des candidatures de qualité.
Exactement.
Simplement sur le principe de la couleur de la peau, dans le fond.
Exactement. Et en plus, faut voir que cette proportionnalité-là, là, qui est un bon principe de base, le principe de base, c'est qu'on veut que chacun des groupes de la société ait des pouvoirs dans des postes qui sont des postes de pouvoir, des postes d'enseignement, de connaissances, des postes qui sont recherchés, qui sont équivalents à leur poids dans la société. Fait qu'il y a 50,9% de femmes dans la société. Je sais pas pourquoi d'ailleurs c'est pas 50-50, c'est 50,9% de femmes, en tout cas. Les gars se tuent en skidou, j'imagine. Il y a 22% de minorités visibles, il y a 7,5% pour les personnes handicapées, puis 4,9% pour les autochtones. Donc, il devrait avoir cette représentation-là dans les postes, par exemple, universitaires, dans les chaires de recherche. Excellent. Bonne idée, bon principe. Ceci étant dit, Par exemple, au Québec, il y a 4 fois moins de personnes des Premières Nations que dans le reste du Canada. Est-ce que tu vas appliquer le même pourcentage? Ou alors dans les régions du Québec? Dans les régions du Québec, tu as seulement 4% de présence de communautés culturelles. Est-ce que tu vas avoir 22%? Tu vas appliquer le 22% de représentation de communautés culturelles? Ça n'a aucun bon sens. C'est un programme mal ficelé, dogmatique, puis bureaucratique.
Ben, il y a des nuances qui s'imposent. La première, c'est il s'agit pas seulement de couleur de ta peau, parce que les femmes sont visées par cette atteinte d'une meilleure équité, d'une meilleure égalité, les minorités de genre également. L'autre chose, Luc, qui n'est pas dit, mais qu'il faut dire, c'est que quand on parle d'exclusion de l'homme blanc, il y a une petite nuance. C'est-à-dire que tant et aussi longtemps que tes cibles ne sont pas atteintes, là, tu peux parler d'exclusion, mais à partir du moment où tes cibles sont atteintes, là, comme on dit, la game va changer. Sauf qu'il faut que tu saches qu'actuellement, les hommes, en septembre 2022, puis j'ai consulté le site du programme des chaires du Canada, les hommes occupent presque 52 % de tous les postes pour ce programme à travers le pays. Donc, c'est faux de dire que les hommes sont exclus. Les hommes occupent déjà une place enviable. Et là, je fais abstraction de toutes les nuances là, qui sont rattachées aux différents programmes de recherche parce que c'est compliqué puis on n'a pas besoin de ça pour notre débat ce matin. Là où je te rejoins, c'est qu'on peut débattre de la question de la compétence. Parce que c'est vrai qu'au Québec, d'ailleurs, on a des programmes d'égalité dans les différents ministères. Il n'y a personne qui semble s'en plaindre. On embauche les Autochtones, les minorités visibles, etc. Ouais. Là où il y a effectivement un débat, c'est sur la compétence. Parce que si un homme blanc compétent est exclu parce qu'uniquement il est un homme blanc. Ça, c'est une chose. L'autre chose, si on embauche, par exemple, une femme qui a des compétences moindres qu'un homme qui est appelé à occuper un poste, ça aussi, c'est un autre enjeu qui mériterait d'être débattu. On verra ce que les différentes commissions des droits de la personne vont décider parce que les deux plaintes de Frédéric Bastien ont été logées depuis octobre dernier au Québec et à Ottawa. Bien hâte de voir quelle sera la décision du gouvernement. Mais moi, Luc, je ne serais pas surprise que la commission rejette cette plainte, mais peut-être nous incite à débattre sur l'enjeu de la compétence. Ça ne m'étonnerait pas.
Mais une autre faiblesse du programme, c'est une bonne part de notre immigration au Québec est une immigration blanche. Les Français, les Belges, les Maghrébins, il y a beaucoup de Maghrébins blancs. Là, tu vas dire quoi? Tu vas dire, tu es un immigrant récent, on veut de toi en région, mais pas assez foncé. Maghrébin, mais ça serait plate, ça serait le fun, c'est un peu plus foncé. Ou alors ton épouse, a fait quoi? Donc, on va embaucher ton épouse, mais pas toi. Ça marche pas.
T'exagères.
Non, ça peut tout à fait se présenter. Un homme blanc français, d'origine française, avec un passeport français, ne se qualifie pas. Alors que ça pourrait être un immigrant en région qui serait extrêmement utile.
Oui, mais 88 sur 65, je vais laisser le pourcentage de côté, là, sur 65 établissements universitaires au pays, 57 ont atteint leur cible en matière d'équité. Les cibles sont visées jusqu'en 2029 et là, en 2022, on est sur le point d'atteindre les cibles. Moi, ce que je dis, c'est que il faut absolument des mesures pour permettre à des gens, par exemple, je suis camerounaise, doctorante, il se pourrait, sans ces mesures d'équité, d'atteinte de l'équité, de l'égalité, que je sois...
Je suis d'accord avec toi, Nathalie.
Je suis d'accord avec toi,
parce que c'est vrai que ce sont des postes pour lesquels le copinage est possible, dans le sens où c'est un réseau de personnes qui se connaissent, qui ont étudié au même endroit, qui ont publié ensemble, qui ont participé à des colloques. La camerounaise qui arrive, là, ses chances, c'est vrai que sont faibles. Donc, je suis d'accord avec toi sur oui, ça prend de la promotion de ces personnes-là, totalement. C'est juste la façon dont est ficelé le programme. Par ailleurs, je rajouterais une nuance. Toi, Nathalie Normandeau, là,
ouais.
Tu te feras embaucher n'importe où, pas de programme, là.
Ouais.
Hein? Ben, si on disait, quand on t'a embauché.
C'est une interrogation, ouais.
C'est une affirmation. Toi, là, t'arrives quelque part, je t'ai embauché à cause du programme. Tu dis, hey, chose bin, là. Laisse faire, tu m'as embauché.
Mais il y a une question de compétence, Luc. Je peux pas croire qu'on évacue la dimension
oui,
compétence.
Oui, totalement. C'est interdit de te présenter.
Un petit commentaire de nature politique, là. Je sais que ce titre paru dans Le Devoir en fin de semaine a plu à beaucoup à ceux que j'appelle les réactionnaires qui carburent au nationalisme identitaire. Parce que derrière ça, il y a tout le discours de pauvres hommes blancs qui sont victimes, la France aux Français, le Québec aux Québécois, il y a tout ça derrière ça, mais on va pas aller sur ce terrain-là, étant entendu que le temps imparti fuit à vitesse grand V.
Tempus fugit, comme on dit en chinois. On s'arrête un tout petit moment, on revient tout de suite après. On va parler, entre autres, de la commission Rouleau.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
La commission Normando-Ferrandaise.
Il est 9h07 minutes. Après avoir parlé de discrimination positive, parlons maintenant de la commission Rouleau. Est-ce qu'on peut toujours affirmer que la loi sur les mesures d'urgence était nécessaire, Luc?
Ouais, c'est pas évident. Moi, j'ai tout le temps dit, puis je suis content de l'avoir dit souvent, parce que tout le monde s'en rappelle, que c'était une simple opération policière aurait suffi pour démanteler Ottawa. D'ailleurs...
Mais encore aurait-il fallu avoir reconnu qu'il allait avoir une manifestation qui allait durer, là.
Ben oui, c'est ça. Non, mais une fois qu'elle a duré, là...
Ouais.
Ah oui, bon. Une fois qu'elle a duré, on s'est rendu compte qu'une simple opération policière a suffi, là, tu sais. On remorque les voitures, puis si tu refuses d'ouvrir ton véhicule, on casse la vitre, puis voilà, c'est tout. Mais, par contre, la crainte que Trudeau a évoquée, c'était la crainte selon laquelle la manifestation allait se déplacer à l'infini. Parce qu'il y avait eu Coutts, il y avait eu en Alberta, il y avait au Manitoba, il y avait eu le pont Emperor, puis il y avait Ottawa, il y avait Toronto pour lequel il y avait des menaces, il y avait Montréal, Québec, je veux dire. Et donc, le gouvernement Trudeau, est-ce que Trudeau est allé dire en commission, c'est moi ce que j'avais peur, c'est que son démantèle le truc qui s'en va ailleurs. Fait que ce que je voulais être capable de faire, c'est des saisies pour que les camionneurs se promènent pas d'un bord à l'autre. Alors pour ça, il a adopté les mesures d'urgence. Rappelons-nous que ce sont les mesures d'urgence nouveau genre. C'est pas l'ancienne mesure d'urgence avec l'armée là. C'est les mesures d'urgence où il y a pas de limite à la liberté d'expression. Tu as le droit de manifester. L'armée est pas présente. Il y a pas de suspension des droits et libertés. C'est limité dans le temps. C'est ciblé géographiquement. Alors sous ces conditions là, c'était, je pense, une bonne idée d'adopter les mesures d'urgence qui ne se sont pas avérées nécessaires. Néanmoins, compte tenu du fait qu'il y avait pas d'armes dans les camions, il y a pas eu de déplacement des manifestations. Il y a eu d'autres événements ponctuels. Il y a pas eu un mouvement organisé de on s'en va bloquer ci, puis on s'en va bloquer ça.
Nathalie.
Ben c'est faux, là, qu'il y a eu des armes à Coutts en Alberta.
Oui, écoute, on a arrêté, mais il n'y en avait pas à Ottawa.
Non, il n'y en avait pas à Ottawa. Sauf que le fond de l'histoire, là, on est parti d'un mouvement spontané qui a dégénéré, qui s'est radicalisé. On peut pas dire que le gouvernement de Justin Trudeau n'est pas transparent dans toute cette histoire. La loi sur les mesures d'urgence étant constituée comme elle est, il y a un exercice de reddition de compte qui fait en sorte qu'on se retrouve aujourd'hui devant la commission Rouleau qui a terminé ses travaux la semaine dernière. Écoutez, le premier ministre est allé témoigner et 7 de ses ministres, les poids lourds du gouvernement, là, les poids lourds du cabinet, c'est du jamais vu. Vous allez me dire, la loi sur les mesures d'urgence aussi, c'est la première fois qu'on la mettait en œuvre, qu'on la mettait en application. Ça aussi, c'était du jamais vu. Je suis d'accord. N'empêche que on a appris beaucoup de choses. On était confortés dans notre conviction à l'effet que la police d'Ottawa a été rapidement complètement dépassée par les événements. Et là où je te rejoins, Luc, si la police, effectivement, avait été mieux organisée, si les communications avaient été meilleures entre les différents corps de police, entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'Ontario, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. N'empêche qu'une réalité qui parle, c'est celle d'un siège qui a duré 24 jours, celle d'un pont bloqué. Là, tu parlais du pont Empereur, c'est le pont Ambassador qui lie Windsor à Détroit. C'est là où il y a le plus grand trafic. Là. Il y a des dizaines de milliers de véhicules légers, véhicules lourds qui traversent ce pont chaque année. C'est un peu le symbole de la relation commerciale qu'on a avec les Américains. Là, on a parlé il y a quelques instants des événements de Coutts. Coutts, là, il y a 13 personnes qui ont été arrêtées, 4 qui ont été accusées. C'était grave, là, les armes qui ont été saisies là-bas. Alors, le gouvernement, avec des informations est plus ou moins complète, est arrivé à un moment donné à la conclusion qu'il fallait poser un geste fort, puissant, pour donner de nouveaux moyens aux policiers d'intervenir. Par exemple, saisir les comptes de banque. Ça, c'est l'élément, selon oui. moi, qui a permis de changer la dynamique du côté d'Ottawa. Il ne faut pas minimiser les pauvres résidents du côté d'Ottawa, ceux qui vivent à Gatineau, qui traversent le pont à chaque jour pour aller travailler à Ottawa, qui étaient pris littéralement en otage. Et puis, mon Dieu, combien de fois, Luc, on a commenté là, les pingouins là, qui prenaient leur spa là, au centre-ville, tu sais, entre les camions au centre-ville d'Ottawa. Alors moi, je dis aujourd'hui, peu importe les travaux de la commission Rouleau, je poursuis et je persiste et signe sur le fait que je l'ai dit. Et je, comme tu l'as dit, Luc, mais moi, je pense que dès le départ, cette loi a démontré sa pertinence.
Oui. Avec des bémols, hein, parce qu'on se rappelle que la loi a été adoptée dans un ordre chronologique qui m'avait beaucoup surpris. C'est que elle a été adoptée après qu'il y a eu le démantèlement pacifique réussi au pont Ambassadeur. Après que Jason Kenney ait fait des appels pour mettre fin au blocage au poste frontalier de Coutts et ait réussi, après la décision de voter les mesures d'urgence de Ford en Ontario, après les manifestations pacifiques de Montréal et de Québec. Donc, est arrivé tard.
C'est normal qu'elle soit arrivée tard, Luc, la loi. C'est normal.
À ce moment-là, quand on avait vu tout le reste, là, on le savait que finalement, il n'y avait pas eu de coup de feu tiré. Il y a eu des armes à coups à l'arrière d'une voiture, mais il n'y avait pas un mouvement terroriste organisé. D'ailleurs, c'est ce que le service de canadien de renseignement a donné comme information au conseil privé. Il a dit, il n'y a pas de menace grave au Canada, à la sécurité du Canada. Ça vient pas de l'extérieur. Il y avait le mouvement Diagolon, c'est un mouvement qui dit qu'on doit s'unir avec une partie des gens de droite en diagonale avec tout l'ouest du pays et l'ouest des États-Unis, mais c'est tout. Tu sais, il y avait pas des gros groupes organisés vraiment qui faisaient du terrorisme depuis des années là.
Ouais, mais le CRS, malgré avec la nuance que tu apportes, a tout de même recommandé au gouvernement de recourir à cette loi sur les mesures d'urgence. On verra ce que le commissaire va conclure, le commissaire, l'ancien juge Rouleau. Mais ce qui est clair, c'est s'il devait conclure que cette loi était inutile, moi, j'ai une crainte pour la crédibilité de nos institutions, la crédibilité de cette loi. Là, j'espère que le juge n'ira pas dans cette direction, mais ça lui appartient.
Luc, Nathalie, merci beaucoup d'avoir été là. À demain.
À demain.
À demain.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.